Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. La résidence de Gilles Slayer lance le calendrier des événements 2018. Le ministère du Tourisme apprécie le calendrier des événements Slayer 2018. La ministre des Affaires étrangères de l'Indonésie discute de l'augmentation commerciale avec son homologue de la Belgique. Le président a salué l'augmentation de la valeur des exportations indonésiennes. Le roi et la reine belge s'intéressent aux artefacts indonésiens. Et enfin, les hommes d'affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique visitent l'aéroport de Kertajati. Voici le journal complet. La résidence de Slayer a lancé le calendrier des événements 2018 à la salle Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona, Jakarta, mercredi le 11 octobre. Avec l'objectif de 11 000 touristes, le lancement de ce calendrier des événements touristiques est l'effort du gouvernement local pour promouvoir et augmenter les arrivées des touristes dans la résidence des îles Slayer. Le vice-résident de cette région, Zainuddin, a dit qu'il voulait promouvoir les îles Slayer car elles ont des destinations touristiques compétitives.
Saya mengatakan bahwa di Kabupaten Pulauan Slayer itu memiliki objek wisata yang sangat.
J'ai dit que dans la résidence de Gilles Slayer, il y a des destinations touristiques compétitives par rapport aux autres résidences. C'est surtout quand on voit naturellement, ça ne fait pas mal si on vend Slayer. Si on voit des objets touristiques, ils sont très beaux. Et au moins, il y a 176 objets qui ont actuellement un statut légal comme destination touristique. Selon Zainuddin, la résidence des îles Slayer compte sur l'attrait de la culture et de la nature, en particulier le tourisme marin, parce que la vision du gouvernement local est la réalisation d'une communauté maritime prospère. À la même occasion, le chef du bureau du tourisme de la résidence des îles Slayer a dit que non seulement se concentrer sur le droit du jour 2018, cette résidence ciblant environ 20 touristes considérant son territoire deviendra l'une des destinations celle Indonésie 2019. Le ministère du Tourisme de l'Indonésie a apprécié le calendrier des événements 2018 de la résidence de Slayer qui a été lancé à Balai Riung Susilo Sudarman, le bâtiment Sabta Pesona, Jakarta, mercredi le 11 octobre. L'appréciation a été exprimée par Esti Reko Astuti dans son discours à la même occasion. Esti Reko Astuti a affirmé cette année, la résidence de Slayer est devenue la région la plus rapide pour lancer son calendrier des événements 2018.
Pertama kali, bahkan saya bilang Pak Kadis Provinsi ini baru pertama kali di tahun ini yang paling tercepat kabupaten yang melaunching kalender.
La résidence de Slayer devient la première et la plus rapide région à lancer le calendrier des événements de 2018. Nous devons donc donner l'appréciation. Et j'avais presque tous les événements de base. Il compte 50 événements composés de 12 événements de base et de 38 événements complémentaires. Niang muang esti reko astuti satang de aseke tut ledat du kalong dekia des evenemang de la résidence de Selayer e ete corrigé, car certain ordre du jour sont encore provisoires. En outre, esti reko astuti également demande au gouvernement de la résidence de Selayer de développer son potentiel touristique et sa promotion, par exemple en coopérant avec les régions autour de la résidence. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Alpemarsudi, lors de sa visite de travail en Belgique, a rencontré son homologue belge, Didier Reynders, et le vice-président de la Commission européenne à la diplomatie étrangère et à la politique de sécurité, Federica Mogherini, mardi, pour discuter de diverses questions bilatérales des deux pays. La présence de la ministre Retno en Belgique est dans le cadre de l'ouverture du festival indonésien d'Europalia, où l'Indonésie deviendra un pays partenaire. C'est ce qu'a affirmé le premier secrétaire des informations socio-culturelles de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, Antje Mailani, mercredi. L'Indonésie et la Belgique ont la capacité de développer le commerce et l'investissement. Après la réunion des deux ministres, la ministre Retno accompagnait le vice-président Youssouf Kalla lors de la réunion avec la Fédération des hommes d'affaires belges et a transmis l'engagement du monde d'affaires des deux pays à élargir et à intensifier les investissements et le commerce entre les deux pays. Le président Joko Widodo a félicité le gouvernement indonésien et le secteur privé qui a enregistré une augmentation de la valeur des exportations d'un montant de 17,58% pour la période de janvier en août 2017 est élevé à 108,79 milliards dollars américains. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo dans son discours lors d'ouverture de la 32e exposition indonésienne de commerce 2017 TEI à Tangerang en province de Banten mercredi. Joko Widodo a déclaré que cette réalisation était le résultat d'un effort de fusion entre le gouvernement avec le privé et le développement des infrastructures ainsi que la connectivité qui continue d'être poursuivie au cours des trois dernières années. Grâce à ces avancées, l'Indonésie a également réussi à augmenter dans le classement de l'indice de compétitivité mondiale établi par le Forum économique mondial ou WEF de la position précédente de 41 à 36. Le TEI 2017 qui se tiendra pendant 5 jours, du 11 au 15 octobre 2017. Pendant ce temps, selon le ministère du Commerce, le comité organisateur de TEI a planifié environ 33 signatures de contrats d'achat lors de TEI. Les contrats commerciaux proviennent entre autres de l'Arabie Saoudite, la Malaisie, l'Égypte, l'Australie, la Thaïlande, l'Inde, le Brésil, le Royaume-Uni et les États-Unis. La valeur totale estimée du contrat commercial est d'environ 223,23 millions de dollars américains. Le roi de Belgique, Philippe Léopold Louis-Marie et la reine Mathilde se sont intéressés à écouter et voir des centaines d'anciens artefacts de diverses régions de l'Indonésie exposés au Festival des arts des Europalia de l'Indonésie. L'agence de presse Antara à Bruxelles a rapporté mardi que le roi et la reine, qui étaient accompagnés par le vice-président et son épouse, Madame Mufida Youssouf Kalla, étaient sérieux de regarder et d'écouter l'histoire de chaque artefact affiché dans Historien. Certains des artefacts exposés sont faits entre autres en bois, en bronze, en or, en argent, en pierre de Sumatra du Nord, de Sulawesi du Sud, de Java, de Nusa Tenggara Est, de Nusa Tenggara Ouest, de Kalimantan et de Papouasie. Après avoir regardé les artefacts, le vice-président, le roi et la reine de Belgique et sa suite ont assisté à un certain nombre de danses traditionnelles indonésiennes. La cinquième présidente indonésienne, Megawati Soekarnoputri, la ministre coordonnatrice du développement humain et de la culture, Puan Maharani, la ministre des Affaires étrangères, Retno Alpemarsudi, le ministre de l'Éducation et de la culture, Muhajir Effendi, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Belgique, au Luxembourg et à l'Union européenne, Yuri Tamrin, y assistent. Un certain nombre d'entrepreneurs du Moyen-Orient et d'Afrique visiteront le projet de construction de l'aéroport international de Java West ou BIJB, situé dans le district de Kertajati, la résidence de Majalengka, l'ouest de Java. Le président directeur général de BIJB, Wirda Dimas Eka Putra, à Bandung mercredi, a déclaré la présence de ses invités était encore dans une série d'activités de la réunion annuelle de l'Indonésie et du Moyen-Orient sur l'économie ou image 2017. Wirda Dimas Eka Putra a déclaré que les investisseurs des pays du Moyen-Orient qui couvrent la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays sont prêts à investir de 200 trillions de rupiah dans Kertajati Aerocity comme zone tampon de l'aéroport de Kertajati, la résidence de Majalengka en province de Java West. Il a dit que les investisseurs du Moyen-Orient sont intéressés à tous les secteurs offerts, allant de l'hospitalité et d'autres. Image qui a été officiellement ouverte par le gouverneur de l'Ouest de Java, Ahmad Heriawan ou Aher, ont été participés par le conseiller à la diplomatie d'économie et le directeur du Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères, un certain nombre d'ambassadeurs des pays du Moyen-Orient à Jakarta et l'ambassadeur d'Indonésie au pays du Moyen-Orient ainsi que des entrepreneurs du Moyen-Orient. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « La mise en œuvre de la taxe sur le commerce électronique ». Tant d'activités de shopping en ligne d'aujourd'hui apportent une bénédiction aux acteurs économiques numériques. Le chiffre d'affaires financier promoteur a encouragé la croissance de nouvelles entreprises dans tout le monde, y compris en Indonésie. Concernant la croissance de l'économie numérique, le gouvernement indonésien appliquera des taxes aux entrepreneurs du commerce électronique pour augmenter les revenus du pays dans ce secteur. Lors d'une récente audition avec le Parlement au DPR, qui s'est poursuivie par une réunion spéciale avec le président, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a annoncé qu'elle allait bientôt publier une nouvelle réglementation fiscale. L'une d'elles est sur la taxe du commerce électronique qui sera inférieure au tarif de la taxe sur la valeur ajoutée, WPN, ou inférieure à 10%. En outre, la ministre Sri Mulyani a veillé à ce que le règlement contienne également des procédures de paiement de l'impôt sur le commerce électronique. Pendant ce temps, le directeur exécutif du Centre d'analyse de la fiscalité indonésienne, Justinus Prastowo, a déclaré que le plan du gouvernement de retirer la taxe sur le commerce électronique doit être immédiatement réalisé. Il considère qu'il existe un énorme potentiel fiscal dans le commerce électronique. Selon lui, en posant équitablement la taxe dans le commerce électronique, l'Indonésie doit apprendre de l'Union européenne qui a mis en œuvre le principe original de la taxe sur la valeur ajoutée. Cependant, les entrepreneurs du commerce électronique demandent au gouvernement, en particulier à la Direction générale des impôts, de ne pas augmenter le fardeau fiscal. Selon le PDG de Bineka.com, Hendril Tio, qui est également président de l'Association de commerce électronique d'Indonésie, a déclaré que jusqu'à présent, les acteurs du commerce électronique avaient payé la taxe sur la valeur ajoutée ou WPN et l'impôt sur le revenu ou WPH. Cependant, il a ajouté que fondamentalement, tous les acteurs de l'industrie du commerce électronique sont prêts à payer des taxes en fonction des réglementations disponibles. Hendry Tio a confirmé que le gouvernement devrait également être juste d'imposer la taxe pour de top OWT appartenant à des étrangers parce que leurs plateformes vont également comme Facebook et Twitter. Il est bon que le gouvernement impose des taxes à quiconque mène des activités économiques en Indonésie parce que cela est lié à la transaction en cours. Le gouvernement s'efforce intensément d'obtenir d'autres sources fiscales pour augmenter les revenus de l'État. Cela est lié aux besoins du développement économique de l'Indonésie, en particulier le développement des infrastructures qui nécessitent des fonds assez grands. Dans l'ère moderne d'aujourd'hui, presque tous les aspects des activités nécessitent un moyen rapide, sécurisé, facile et efficace à travers toutes les transactions numériques. Tant de commerces en ligne sont devenus une option rentable pour les entrepreneurs. Par conséquent, il est raisonnable si le gouvernement impose la taxe sur le commerce électronique. Mais, dans le but de maximiser les revenus provenant du commerce électronique, on nécessite un guichet unique de réalisateur dans le retrait de la taxe sur la valeur ajoutée dans chaque transaction numérique. Serviteur, c'est le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Secrétaire, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Guinée équatoriale. La République de Guinée équatoriale est un pays d'Afrique centrale. Elle est constituée de deux parties, l'une continentale, bordée par le Cameroun et le Gabon. L'autre insulaire avec l'île de Bioko, où se trouve la capitale Malabo, et l'île d'Annabon. La Guinée équatoriale comprend un mini-pays en Afrique dont le territoire est encore plus petit que le district de Kampar à Riau. La République de Guinée équatoriale a obtenu son indépendance de l'Espagne le 12 octobre 1968. La langue officielle de ce pays est l'Espagne, la France et le Portugal. Notre information est sur Pervez Musharraf. Pervez Musharraf naît le 11 août 1943 à New Delhi, où un Britannique est un général et un homme d'État pakistanais, président de la République de 2001 à 2008. À la suite d'un coup d'État non violent, il a été à la tête du Pakistan du 12 octobre 1999 au 18 août 2008, mais officiellement président de la République seulement du 20 juin 2001 au 18 août 2008. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Les attentats de Bali du 12 octobre 2002. Les attentats de Bali sont un double attentat à la bombe qui s'est produit le 12 octobre 2002 dans la ville de Kuta sur l'île indonésienne de Bali, tuant 202 personnes et en blessant 209 autres. La plupart des victimes étaient des touristes étrangers, principalement australiens. Cette attaque est considérée comme l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de l'Indonésie. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Serviteur, c'est maintenant pour nous de vous présenter la mise au point et pour le titre, les hommes d'affaires doivent être prêts à faire face à la CEA. Les hommes d'affaires qui sont les membres des micro, petites et moyennes entreprises ou MPME doivent être en mesure de faire face à la concurrence, notamment face au marché libre de la communauté économique de l'ASEAN. Ils doivent améliorer la qualité de la production et être compétitifs pour saisir l'opportunité du marché libre. Cela a été dit par le régent de Lebak, Iti Octavia Jayabaya, dans son discours en commémoration du 70e anniversaire des coopératives qui a eu lieu à Alun-Alun Rangkasbitu dimanche le 8 octobre. Iti Octavia a dit que le gouvernement local appréciait quelques produits des MPME et des PME de la communauté Lebak qui pouvaient pénètre les marchés d'exportation, entre autres l'artisanat du bambou, le sucre de palme en fine. Ces productions sont exportées à un certain nombre de pays de l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Par conséquent, il espère que les autres produits des MPME pourront également être exportés. Selon Iti Octavia, pour pénétrer le marché libre de la CEA, les entreprises doivent améliorer la qualité de la production par le développement de la gestion des ressources humaines ou GRH, l'esprit d'entreprise, la formation et l'apprentissage dans d'autres régions. En outre, l'augmentation de l'emballage, la certification halal, la certification biologique internationale, les codes ABAR enregistrés auprès de l'autorité de réglementation des médicaments et des aliments. La mise en œuvre du marché libre serait assez difficile pour encourager le développement de l'économie populaire. Les acteurs commerciaux doivent avoir des avantages avec des produits extérieurs, de sorte que les produits PME s'intéressent au marché libre. À l'heure actuelle, le nombre de MPME à Lebak atteint 49 686 unités et 49 400 unités de PME. La production de MPME et de PME, entre autres les artisanats de bambou, sucre de palme. En outre, il y a des artisanats de badou tels que des tissus tissés, des sacs, des portefeuilles, des souvenirs et du miel de forêt. Iti Octavia Jayabaya est optimiste que la production de MPME et de PME peut pénétrer le marché libre si la qualité peut être compétitive. À la même occasion, le directeur de la division agro-industrie et la gestion des produits forestiers du Bureau de l'industrie et du commerce de Lebak, M. Yassine, a déclaré qu'il améliorait le coaching des entrepreneurs par la diversification des produits, la gestion, la finance et la formation à l'entrepreneuriat. Il a dit qu'actuellement, les auteurs des petites et moyennes industries à Lebak ont développé, entre autres, l'artisanat, le métal, divers types de nourriture, les produits agricoles, les plantations et l'exploitation minière. À cette fin, il continue d'encourager les auteurs de petites et moyennes entreprises à devenir le pouvoir économique de la société et à être compétitifs sur le marché libre. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. Voici le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Alpemarsudi, lors de sa visite de travail en Belgique, a rencontré son homologue belge, Didier Reynders, et le vice-président de la Commission européenne à la diplomatie étrangère et à la politique de sécurité, Federica Mogherini, mardi, pour discuter de diverses questions bilatérales des deux pays. La présence de la ministre Retno en Belgique est dans le cadre de l'ouverture du festival indonésien des Ropalia, où l'Indonésie deviendra un pays partenaire. C'est ce qu'a affirmé le premier secrétaire des informations socioculturelles de l'ambassade d'Indonésie à Bruxelles, Antje Mailani, mercredi. L'Indonésie et la Belgique ont la capacité de développer le commerce et l'investissement. Après la réunion des deux ministres, la ministre Retno accompagnait le vice-président Youssouf Kalla lors de la réunion avec la Fédération des hommes d'affaires belges et a transmis l'engagement du monde d'affaires des deux pays à élargir et à intensifier les investissements et le commerce entre les deux pays. Le président Joko Widodo a félicité le gouvernement indonésien et le secteur privé qui a enregistré une augmentation de la valeur des exportations d'un montant de 17,58% pour la période de janvier en août 2017 est élevé à 108,79 milliards de dollars américains. C'est ce qu'a affirmé le président Joko Widodo dans son discours lors d'ouverture de la 32e exposition indonésienne de commerce 2017 TEI à Tangerang en province de Banten mercredi. Joko Widodo a déclaré que cette réalisation était le résultat d'un effort de fusion entre le gouvernement avec le privé et le développement des infrastructures ainsi que la connectivité qui continue d'être poursuivie au cours des trois dernières années. Grâce à ces avancées, l'Indonésie a également réussi à augmenter dans le classement de l'indice de compétitivité mondiale établi par le Forum économique mondial ou WEF de la position précédente de 41 à 36. Le TEI 2017 qui se tiendra pendant 5 jours, du 11 au 15 octobre 2017. Pendant ce temps, selon le ministère du Commerce, le comité organisateur de TEI a planifié environ 33 signatures de contrats d'achat lors de TEI. Les contrats commerciaux proviennent entre autres de l'Arabie Saoudite, la Malaisie, l'Égypte, l'Australie, la Thaïlande, l'Inde, le Brésil, le Royaume-Uni et les États-Unis. La valeur totale estimée du contrat commercial est d'environ 223,23 millions de dollars américains. Le roi de Belgique, Philippe Léopold Louis-Marie et la reine Mathilde se sont intéressés à écouter et voir des centaines d'anciens artefacts de diverses régions de l'Indonésie exposés au Festival des arts des Rovaliers de l'Indonésie. L'agence de presse Antara à Bruxelles a rapporté mardi que le roi et la reine, qui étaient accompagnés par le vice-président et son épouse, Madame Mufida Yusuf Kala, étaient sérieux de regarder et d'écouter l'histoire de chaque artefact affiché dans Historien. Certains des artefacts exposés sont faits entre autres en bois, en bronze, en or, en argent, en pierre de Sumatra du Nord, de Sulawesi du Sud, de Java, de Nusa Tenggara Est, de Nusa Tenggara Ouest, de Kalimantan et de Papouasie. Après avoir regardé les artefacts, le vice-président, le roi et la reine de Belgique et sa suite ont assisté à un certain nombre de danses traditionnelles indonésiennes. La cinquième présidente indonésienne, Megawati Soekarnoputri, la ministre coordonnatrice du développement humain et de la culture, Puan Maharani, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre de l'Éducation et de la culture, Muhajir Effendi, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Belgique, au Luxembourg et à l'Union européenne, Yuri Tamrin, y assistent. Un certain nombre d'entrepreneurs du Moyen-Orient et d'Afrique visiteront le projet de construction de l'aéroport international de Java West ou BIJB situé dans le district de Kertajati, la résidence de Majalengka, l'ouest de Java. Le président directeur général de BIJB, Wirda Dimas Eka Putra, à Bandung mercredi a déclaré la présence de ses invités était encore dans une série d'activités de la réunion annuelle de l'Indonésie et du Moyen-Orient sur l'économie ou image 2017. Wirda Dimas Eka Putra a déclaré que les investisseurs des pays du Moyen-Orient qui couvrent la Turquie, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et d'autres pays sont prêts à investir de 200 trillions de rupiah dans Kertajati Aerocity comme zone tampon de l'aéroport de Kertajati, la résidence de Majalengka en province de Java West. Il a dit que les investisseurs du Moyen-Orient sont intéressés à tous les secteurs offerts, allant de l'hospitalité et d'autres. Image qui a été officiellement ouverte par le gouverneur de l'Ouest de Java, Ahmad Heriawan ou Aher, ont été participés par le conseiller à la diplomatie d'économie et le directeur du Moyen-Orient, le ministère des Affaires étrangères, un certain nombre d'ambassadeurs des pays du Moyen-Orient à Jakarta et l'ambassadeur d'Indonésie aux pays du Moyen-Orient ainsi que des entrepreneurs du Moyen-Orient. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, serviteurs de la Voix d'Indonésie. Je suis si heureux de vous rencontrer encore dans la rubrique magazine culturel. Dans cette édition, je vais vous présenter des informations sur Tour de Borobudur. Assurez-vous de rester ici avec nous à www.voi.co.id. La province de Java Central a un beau charme naturel, même l'une des sept merveilles du monde se trouve là-bas, c'est le temple de Borobudur. Pour explorer la beauté naturelle de Java Central, un événement sport-tourisme intitulé Tour de Borobudur aura lieu du 11 au 12 novembre. Cette activité de cyclotourisme est organisée par Semarang Bicycle Association Club avec Bank Tabungan Negara ou l'une des banques de l'Indonésie. Cette année, cet événement a pris le thème « Fractionner la beauté naturelle du centre de Java ». Ce thème a été choisi pour l'exploration de la beauté naturelle de Java Central. Basé sur le thème, les routes à parcourir par la tour de Borobudur se sont de la ville de Semarang, Kendal, Ungaran, Semarang, Ambarawa, Temanggung et Magelang. Un certain nombre de ces routes sont connues pour ses belles attractions naturelles et la flore et la faune qui sont typiques. Dans la ville de Semarang, par exemple, la zone de réservoir dans la région de Gokreo est encore habitée par de nombreux singes qui ont une légende avec Sunan Kalijaga, l'un des propagandistes de la religion de l'islam sur l'île de Java. Ensuite, en région de Limbangan Kendal, on trouve encore beaucoup d'oiseaux aigle Java. Tour de Borobudur est divisé en trois catégories, à savoir la catégorie de 100 km, 100 km et VVIP. Spécialement pour les participants de la catégorie de 100 km, ils exploreront la beauté naturelle de Java Central et passeront de nombreux chemins d'escalade dans les montagnes. En détail, en particulier pour la catégorie de 100 km, les participants partiront du bureau du gouverneur qui est situé à Jalan Pahlawan Semarang. Ils passeront le sentier du milieu, à savoir la route de Gunung Pati Semarang, Limbangan Kendal, Sumowono Semarang, Temanggung à Magelang. Surtout pour la catégorie de 100 km, les participants prendront le départ de Makobrimob Banyumanik. Ils passeront la route de Semarang, Lingkar Ambarawa, Banyu Biru à la résidence de Magelang. Cet événement a également été suivi par des participants étrangers. Il y a 20 participants étrangers tels que le Japon, Singapour, l'Australie et l'Allemagne. Serviteurs, c'était l'Indonésie encore ce soir. Merci de vos attentions. Au revoir. Thank you.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Beaucoup de gens disent que le petit déjeuner avec du pain n'est pas l'habitude des gens de l'Indonésie. Seulement les Occidentaux qui prenaient le petit déjeuner avec du pain. Mais cette opinion n'est pas totalement vraie, car il existe une variété de boulangeries étant fondée il y a quelques décennies en Indonésie. Concernant cette question cette fois, nous allons introduire 5 boulangeries légendaires en Indonésie. La première boulangerie légendaire existe dans la ville de Solo. Son nom est Roti Mandarin Orion. Elle a été fondée dans les années 1930, située à rue Urip Sumoharjo, Surakarta, Jawa Central. Le produit principal de cette boulangerie est Roti Mandarin, ou le pain mandarin, qui est devenu l'un des souvenirs typiques de Solo. Sa forme est comme le lapis Surabaya. Ce pain n'utilise pas de conservateurs, il est donc sans danger pour être consommé tout le temps. Il y a une boulangerie avec une sensation nostalgique dans les années 1930 dans la ville de Semarang. Son nom est Toko Oen. L'ambiance classique de la boulangerie est maintenue jusqu'à présent. Les acheteurs peuvent acheter du pain traditionnel de Semarang qui est maintenant tout à fait rare. C'est le pain de Ganjil Raya. Si vous voulez goûter ce pain, vous pouvez visiter Toko Oen, qui est situé à Rue Pemuda, Semarang. La boulangerie légendaire suivante est située à 23 Rue Sudirman, la ville de Bogor. Son nom est Toko Bogor Permai, qui est situé près de Taman Kencana et il a déjà existé depuis 1963. Elle est encore célébrée jusqu'à présent pour son pain de gâteau traditionnel. Bien que les décors de la boulangerie soient déjà modernes, les visiteurs peuvent encore voir une variété de pain qui peut être rarement rencontré dans d'autres boulangeries, comme par exemple le pain de tapal kuda, le pain de cassette et le pain de gamba. Le prix du pain et des gâteaux ne sont pas chers, environ de 2000 rupias jusqu'à 20 000 rupias. L'autre boulangerie légendaire est Toko Rotisserie de Dadi, située à Bandung, précisément à 255 rue Otista, Bandung. Cette boulangerie est présente depuis 1954. Ici, les visiteurs peuvent trouver un des rares gâteaux typiques de Bandung, à savoir le gâteau de banquette. En outre de l'âge et les menus qui sont assez vieux, les caractéristiques de la boulangerie et le processus de fabrication du pain est tout à fait différent. Elle utilise encore le charbon et du bois comme propulseur du pain. Enfin, il y a une boulangerie légendaire qui peut encore être trouvée dans la capitale de l'Indonésie, Jakarta, à savoir la boulangerie Tan Ek Choan. Cette boulangerie a commencé sa production depuis 1953. Il y a plusieurs pains qui sont toujours maintenus comme le pain de gamba, le pain de chocolat au lait, le pain de nougat et le pain de solo. Les visiteurs peuvent aussi commander le pain de buaya ou le pain de crocodile, allant de la longueur d'un demi-mètre jusqu'à un mètre. Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, visitez le boulangerie Tan Ek Choan à 61 rue Cikini Raya, Jakarta Central. Chers auditeurs et auditrices de La Voix de l'Indonésie, voici 5 boulangeries légendaires en Indonésie et c'est Indonésie en couleur de La Voix de l'Indonésie. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de La Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ca.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse senior, Ermi Kulit, qui a commencé à exister dans l'industrie de musique jazz en Indonésie à l'ère 70. Bon, Sergio, pour ouvrir notre rencontre, voici Ermi Kulit avec sa chanson intitulée Pasrah. Bonne écoute.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah, namun tiada pernah ku dengar kabar. Oh sayang, mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain hingga diriku begitu saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua pasrahkan pada yang ilahi. Musik. kau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya. Begini aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya Ilahi. Padanya Ilahi.
Ermi kulit dong lenong komple Ermi Mariam Nurjana kulit ene amanado le 13 Mei 1955 yale la sang tez de jazz indonesien. Ermi aigal mangsuk nome Salena Jones de l'Indonésie. Elle célèbre que grâce la chanson intitulée Kasih et Pasra. Toutes les deux sont composées par Richard Kyoto. Depuis le début de sa carrière en 1973, Ermi a lancé plus de 20 albums. Depuis l'enfance, Ermi a montré son talent pour chanter. À un jeune âge, Ermi a souvent chanté aux fêtes d'anniversaire et de mariage des parents à Manado. Mais la performance professionnelle a commencé lorsqu'elle était à l'école secondaire de la classe 3 après sa performance avec les bandes d'accompagnement comme Eliska, Nada Yuda, de Logis et de Nos en ville de Manado et ses environs. Bon, serviteur, écoutons maintenant la chanson suivante d'Ermi Kulit intitulée Kasih. Bonne écoute.
Aku padamu seakan kau hadir di sisi.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse de jazz, Hermi Kulit. Hermi Kulit est connue par les amateurs de musique indonésienne avec le surnom de Dame de Jazz. Après être vite de sortir l'album, Hermi réanime le monde de la musique indonésienne en lançant l'album intitulé Timeless Hits Série A, qui a coïncidé avec son 60e anniversaire. Dans cet album, il y a 13 chansons. L'une d'elles est une nouvelle chanson composée par un musicien de la ville Malang intitulée Masih Ada Lagi, et le reste est le vieille chanson qui sont chantées à nouveau. Avec la sortie de nouvel album, elle espère de guérir le mal des fans de diverses régions indonésiennes envers les chansons de jazz. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici les chansons suivantes d'Hermi Kulit intitulées « Aku masih menunggu » et « Hanya dirimu ». Bonne écoute et au revoir.
Thank you.
C'est un autre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter, Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.